Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris Pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous. Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. L'émission Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et des précaires. Ce soir, nous poursuivons notre série documentaire sur le chômage au cinéma. Nous avions commencé cette série par Le chômeur de Clochemerle, donc qui racontait l'histoire d'un chômeur dans les années 50. Nous la poursuivons aujourd'hui avec Les raisins de la colère, le film de John Ford, inspiré du roman de Steinbeck. Un roman, effectivement, qu'on ne présente plus, hein, puisque il fait référence quand on parle de la crise de 29, y compris aux États-Unis. Alors, bien sûr, l'idée de cette série, c'est un peu d'essayer d'abord de raconter le film et aussi de comparer à la fin la situation présente à ce qui nous est présenté, ce qui nous a été présenté à l'époque.
Les raisins de la colère, la deuxième œuvre la plus connue de Steinbeck, écrite en 1938, est une dénonciation des pratiques capitalistiques inhumaines et exalte la dignité des pauvres gens obligés de quitter leur pays en allant vers une terre promise dans l'ouest des États-Unis, en Californie, Eldorado de la réussite, pour y trouver du travail. Un an plus tôt, Steinbeck publie « Des souris et des hommes », œuvre magistrale qui compte l'amitié entre deux hommes qui recherchent un emploi en sillonnant les routes dans ce même état, la Californie. Serait ce début du rêve américain, sous d'autres cieux, tous les espoirs nous sont permis. On verra bien dans Les raisins de la colère que la réalité est tout autre. On est là dans la littérature humaniste, une sorte de réalisme social. En 1940, John Ford réalise le film et obtient l'Oscar du meilleur film. Ford est spécialisé dans le western, La chevauchée fantastique par exemple. Alors pourquoi tourner un film social? Dans une Amérique en pleine récession qui comprend 15 millions de chômeurs, les scénaristes et réalisateurs sont touchés par le fléau. Ford appartient au syndicat des réalisateurs et veut participer à sa manière, en réalisant ce film, à la dénonciation du capitalisme qui détruit des vies. Il réalisera d'autres petits bijoux cinématographiques, comme par exemple Les Sacrifiés, qui raconte la campagne du Pacifique, Dieu est mort, qui relate la guerre du Mexique et la mort des prêtres tués par des révolutionnaires, ou L'homme tranquille, histoire d'un boxeur qui raccroche les gants. Pendant la guerre, il fera des films de guerre. Propagande ? Par la suite, il dénoncera le marcartisme en considérant que les méthodes utilisées sont dignes de la Gestapo et on lui prêtera des amitiés communistes. En revenant donc dans les années 40, dans le même temps, donc pendant que les raisins de la colère passent sur les écrans, sort également Chaplin, sort Le Dictateur. Et en France, on peut voir Quai des Brumes de Carnet en 38 ou Le Règle du Jeu de Renoir en 39. En Allemagne, sort en 1943 Les Aventures Fantastiques du Baron Munchausen en noir et blanc, œuvre fantasque, féerique, presque surréaliste, de Joseph von Bakky, qui démontre que les Allemands n'ont aucune conscience de ce qui se passe dans leur propre pays, ou bien cherchent-ils à ne pas être censurés ou pire. En Espagne sort Terre sans pain du grandiose Buñuel. Ce film a des similitudes avec Les raisins de la colère, c'est une photographie d'un réalisme social de ceux qui n'ont rien. En Grande-Bretagne, c'est une femme qui disparaît, d'Hitchcock, qui passe au cinéma et qui marque les esprits. Quant à la Grande-Russie, Ivan le Terrible d'Eisenstein a tous les suffrages. L'œuvre cinématographique est une création faite de réflexions, de choix, de points de vue, de prises de position, comme peut l'être l'art théâtral ou l'œuvre littéraire. Il est toujours intéressant de les voir se mettre au service de l'action sociale ou de la chose politique, surtout quand les arts dénoncent les excès d'un système qui ne paraît pas apporter le bien-être au plus grand nombre. Mais l'art doit-il être politique ? La réponse paraît être non, parce que les politiques changent, alors que l'œuvre artistique est entre autres un don de soi, un legs, une mémoire, ce qui lui donne un goût d'immortalité.
Claude, c'est toi qui as eu l'idée donc des Raisins de la Colère. Tu as tout de suite pensé à ce film. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Parce que c'est tout simplement un grand classique du cinéma relatant la crise de 1929. C'est un très bon film avec un bon scénario, avec une belle image, avec une musique qui a marqué. Donc voilà, c'est un classique. Et quand on réfléchit un petit peu à savoir... Alors il y a quelques autres films qui ont marqué également, parlant du chômage, hein, ou dans un contexte de chômage, et qui ont marqué également l'histoire du cinéma, et on le fera sans doute après. Mais voilà, l'un des premiers films qui m'est venu à l'esprit, après Le chômeur de Clochemerle, c'était forcément Les Raisins de la Colère.
Pourquoi Les Raisins de la Colère ? Eh bien, parce que c'est d'actualité, dirais-je, puisqu'en fait, on a tous le regard tourné vers la crise de 1929 en raison de la crise actuelle de 2008-2009, qui est une crise financière qui rappelle étrangement le krach boursier des années 1929. Sauf qu'évidemment, les conséquences n'ont pas été les mêmes, encore que... On peut se poser la question en termes de chômage. Donc il nous a effectivement semblé intéressant bien de se pencher un tout petit peu sur cette période et de voir ce qui se passait quand une société était en crise et qu'il n'y avait pas de filet de sécurité.
Dans une semaine ou deux, et ne fais pas de bêtises pendant que je ne serai pas là.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Et tu me fais faire un bout de chemin, mon vieux. Tu vois pas cet écriteau?
Si, je le vois. Mais un brave type n'a pas à s'occuper des choses qu'un salaud lui colle sur son camion.
Eh bien, plante-toi sur le marchepied jusqu'à ce qu'on arrive au tournant.
Alors, le roman de Steinbeck, en fait, a été écrit en 1939, peut-être 8 ans après les événements qu'il relate. Le film, lui, a été adapté tout de suite en 1941, c'est-à-dire que le livre a eu un immense retentissement parce qu'il racontait très très bien cette période. Alors, il a été écrit donc effectivement en 1939, mais il faut se souvenir que la crise de 1929 aux États-Unis a duré, on peut dire, de 1929 au moins à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, et que la Deuxième Guerre mondiale a servi à l'économie américaine pour sortir de la crise. Donc les événements qu'il raconte sont encore bien présents dans la mémoire et sont encore actuels, puisque les grandes grèves à New York, à Baltimore, les grandes grèves d'ouvriers se font en 1936-1937. Donc c'est un roman qui est pratiquement contemporain des faits qu'il raconte, en fait, hein, et on peut estimer que son auteur les a vus en détail.
Salut.
T'es pas le jeune Tom Jaude, le fils du vieux Tom?
Si, je m'en retourne à la maison.
Sacré nom d'un chien. Je t'ai baptisé, petit.
Dites, c'est vous le pasteur?
Autrefois. Plus maintenant. J'ai perdu la foi. Mais mon gars, autrefois, je l'avais. Je n'ai plus rien sur quoi prêcher maintenant, c'est tout. Je suis plus sûr des choses.
Alors l'histoire commence effectivement avec l'arrivée de ce tolard qui a fait 4 ans de prison pour meurtre, enfin pour homicide exactement, homicide involontaire, qui a été condamné à 7 ans mais qui en a fait 4, et qui revient dans sa ferme natale pour s'apercevoir que sa famille a été expulsée. Et qu'ils vont partir en Californie, et il rencontre un prêtre, et ce prêtre lui dit qu'il a renoncé à son sacerdoce puisqu'il ne croit plus en Dieu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà il y a un côté religieux assez fort qui est marqué dans le film, hein, et qui est présent dans tout le film, et qui fait partie des grands thèmes américains qui traversent le film. Et là, il y a cette espèce de doute de la foi américaine, qui est mis en question par les faits. Et puis il y a ce scepticisme, hein, de ce prêtre défroqué.
Ce gars qui sort de prison, on veut nous le présenter quand même comme un bon gars. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque un accident. Il y a eu une bagarre dans un bal, je crois. Enfin, il y a un nain qui a sorti son couteau et lui, avec un manche de pioche, lui a donné un coup tellement fort, apparemment, il était bien bâti, que le gars en est mort, quoi. Mais on le présente ça comme un accident. Donc, il a payé sa dette, on lui donne une remise de peine, d'ailleurs. Mais il n'est pas question dans le film de montrer quelqu'un qui aurait commencé par une vraie délinquance, c'est-à-dire un petit voleur ou un magouilleur ou un joueur de cartes. Non, pas du tout.
Oui, absolument. Ce qui est intéressant dans le film, c'est la pureté, hein, bien sûr. La pureté des êtres qui vont être confrontés à des événements qui les dépassent et qui sont horribles et qui vont forcément, à un moment donné, les rendre méchants. On dit souvent que... On parle souvent de la naïveté américaine, qui est souvent mise en question, enfin de la famille moyenne américaine. Mais effectivement, il y a un artifice, enfin je sais pas si c'est cinématographique ou c'est littéraire, c'est de présenter des gens qui sont bons au départ, bons et simples au départ.
Ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé à moi, un homme est venu un jour.
Pour dire vrai, Mulet, après ce que la tornade a fait comme ravage, le système de fermage ne peut plus marcher. Ça ne paie même pas les frais, encore moins donne-t-il de profit. Mais un seul homme sur un tracteur peut s'occuper d'une douzaine de ces lotissements. On ne lui paie qu'un salaire et on prend toute la récolte.
Ouais, mais on pourrait pas avoir moins que la part qu'on touche en ce moment. Mais les enfants n'ont même pas assez à manger comme ça. Et ils sont si loqueteux qu'on aurait honte si les gosses des autres n'étaient pas logés à la même enseigne.
J'y suis pour rien, tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu des ordres. On m'a dit de vous dire de partir et c'est pour ça que je vous le dis.
Que je parte de ma propre terre?
Pas la peine de m'en vouloir, c'est pas de ma faute.
C'est la faute à qui?
À qui appartient la terre? La société Shawnee des terres arables.
Et qui est la société Shawnee des terres arables?
C'est pas une personne, c'est une société.
Ils ont un directeur, n'est-ce pas? Ils ont quelqu'un qui sait à quoi sert un fusil, n'est-ce pas?
Oh petit, c'est pas sa faute, c'est la banque qui lui dit ce qu'il doit faire.
Très bien. Où est la banque?
À Toulsa. Mais à quoi bon se retourner contre lui? Il n'est rien que le directeur. Et il a assez d'ennuis déjà à exécuter les ordres venus de l'Est.
Alors sur qui il faut tirer?
Mon vieux, j'en sais rien. Si je le savais, je vous le dirais. Mais je sais pas à qui est la faute.
Eh ben moi, je sais une chose, monsieur. C'est que personne n'arrivera à me chasser de ma terre. Mon grand-père a pris cette terre il y a 70 ans. Mon père y est né. Nous y sommes tous nés. Et plusieurs d'entre nous y ont été tués.
Le film se poursuit puisque il rencontre un vieillard dans une maison abandonnée qui raconte comment un beau jour ils ont été expulsés et effectivement ça commence par l'arrivée du propriétaire puisque ce sont des paysans qui sont en métayage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires de leurs terres et ils donnent leur récolte visiblement contre le produit, et bon, on peut estimer que c'est un arrangement entre producteurs concentrés qui réunit un peu toute la production agricole et qui va la vendre en ville.
Alors en fait, la personne qui se présente un peu comme en belle voiture et comme s'il était le propriétaire n'est pas le propriétaire. On apprend très rapidement qu'en réalité, c'est une société. Et ça regroupe donc cette personne-là ne fait que de niveau cadre, on va dire, gérer cette société. Et alors cette société, on nous dit oui, ben l'argent, il est dans les banques. Oui, mais les banques, c'est totalement anonyme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont placé leur argent. Comment ça nous expliquer ce que c'est que le capitalisme? C'est eux qui ont acheté. Alors comment ça se fait que ces gens-là se retrouvent propriétaires de tout? Au départ des États-Unis, il fallait occuper le terrain, il fallait faire pousser des choses, bien entendu, pour se nourrir. Et il était dit aux paysans que, ben voilà, hein, ils prenaient la terre dont ils avaient besoin, ce qu'ils pouvaient en faire, et puis ils s'installaient dessus, et c'était à eux, mais c'était à eux sans titre, en réalité. Et puis, je ne sais pas le détail, mais toujours est-il que d'autres films ont relaté ce genre de choses, c'est-à-dire que le gouvernement s'est mis à vendre des terres après. Il s'est mis à les vendre parce qu'il avait besoin d'argent, c'est un petit peu comme des impôts. Et des gens qui étaient déjà fortunés ont acheté beaucoup de titres comme ça, sans s'occuper qu'il y avait des gens qui exploitaient ces terres-là. Ces gens-là, alors c'est devenu des sociétés. Ces sociétés, ben, c'est comme s'il y avait des métayers. Et puis, à partir du moment où il y a eu une crise, où il y a eu surtout un manque de production alimentaire, bah l'Amérique mécanique, on va dire, hein, l'Amérique des villes, s'est rendu compte que c'était trop artisanal, qu'il fallait faire une production à une plus grande échelle. Et donc, pour produire à une plus grande échelle, eh ben, il fallait expulser et retirer tous ces gens qui vivaient un petit peu dans un autre temps.
Oui, alors le mot exact est vraiment vivre dans un autre temps. Alors, c'est vrai qu'on a là, on a la cohabitation de deux choses très différentes, mais qui font un peu l'Amérique, enfin, ou qui faisaient l'Amérique. C'est qu'on a d'une part des gens qui sont installés sur des terres pauvres, c'est-à-dire qui sont pauvrissimes, leur production, leur récolte leur permet à peine de vivre, et on le voit très bien dans le film, hein. Il y a un dialogue où, pour dire qu'ils sont habillés comme des guenilles et que si tout le monde dans la région n'était pas habillé comme ça, eh bien ils auraient honte. Et on trouve ça un peu dans tous les terres du Midwest, bon, qui sont quand même... c'est-à-dire que plus on avance dans l'Est et plus la sécheresse, plus les conditions climatiques deviennent arides et plus ça devient difficile de faire pousser quelque chose, il faut bien irriguer. Et là, on est dans... Là, c'est pas de chance, c'est que... On est dans une situation où finalement les terres rapportent, enfin la production rapporte tellement peu, eh bien il faut un peu s'organiser, donc ce qui explique probablement la concentration des terres, c'est-à-dire la concentration de la production, la centralisation de la production agroalimentaire pour l'acheminer vers les villes. Et puis il y a une exploitation qui est intensive, donc qui appauvrit les sols, et par-dessus le marché, eh bien, il y a la sécheresse et le vent, le fameux Dust Bowl qu'on appelle, c'est-à-dire cette espèce de vent calamiteux qui a emporté littéralement toutes les terres avec elle, du fait simplement qu'elles aient été trop cultivées, hein, des champs entiers qui partaient parce qu'ils étaient plus tenus par... simplement par la flore qui s'y trouvait dessus. Et il se passe là-dessus un autre phénomène, enfin c'est la crise de 29. Et la crise de 29 a eu pour effet de faire baisser les prix de l'agroalimentaire dans des proportions beaucoup plus importantes que les prix des marchandises. On ne sait pas très bien pour quelles raisons, mais il y en a une qu'on peut deviner, c'est qu'effectivement il y a beaucoup plus de producteurs, de paysans producteurs, et que le marché est beaucoup plus anarchique, et donc il n'y a pas de grandes firmes pour contrôler les prix, il n'y a pas de contrôle des prix, et de fait, il y a aussi une espèce de surproduction, c'est-à-dire progressivement l'agriculture américaine se mécanise, et à la chute des prix, c'est à ce moment-là qu'effectivement... la production vivrière ou la production de céréales ou la production de pommes de terre, je ne sais quoi, ne devient plus du tout rentable. Et c'est à ce moment, et ça c'est très intéressant, parce que finalement la crise permet au capitalisme de se réorganiser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, il faut détruire la petite propriété, reconcentrer les terres et mécaniser tout ça. Et effectivement... des milliers de gens sont jetés à la rue, sachant que la chute des prix est telle que pour faire remonter les cours, il n'y a pas d'autre solution que de laisser pourrir les fruits sur l'arbre ou de détruire les récoltes. Et c'est ce que raconte très bien Steinbeck, c'est que il raconte en fait l'absurdité du capitalisme, c'est-à-dire que il n'y a jamais eu autant de production agricole qui est gâchée, qui est brûlée, qui pourrit, alors que les gens sont expulsés de chez eux, n'ont pas de quoi manger, et qu'on leur a interdit désormais d'aller se servir simplement de leur propre production. Enfin, de ce qui n'est plus leur production maintenant, mais de leur propre production pour vivre.
T'avises pas d'approcher ou je te fous en l'air de d'autres acteurs. T'es prévenu. Mettez le gars dessous des vis. Je n'aime pas que quelqu'un me vise avec un fusil. Alors pourquoi tu fais une chose comme ça contre tes propres pays?
$3 par jour, c'est pour ça que je la fais. J'ai deux petits gosses à la maison, et ma femme, et puis ma belle-mère. Il faut qu'ils bouffent. D'abord et avant tout, je pense à ma propre famille. Il arrive aux autres personnes, ça ne regarde que.
Oui, mais tu comprends pas, mon gars. Ça, c'est ma terre.
C'était ta terre. C'est à la société maintenant.
C'est comme tu veux, mon gars. Mais je te préviens que si tu touches à ma maison avec cette chenille, je te tuerai, aussi sûr que t'es assis là.
Tu parles pour rien dire, tu ne tueras personne. D'abord, on te pendrait, et tu le sais bien. Ensuite de ça, il ne se passerait pas deux jours avant qu'ils envoient un autre gars pour prendre la place. Maintenant, allez, tire-toi de là.
Oui, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que... au travers d'une scène où c'est parfaitement expliqué, en fait. C'est-à-dire quand le tracteur il arrive pour démolir la cabane, pour prendre possession des terres, l'engin chenillé, paysan, réflexe de paysan, l'attend avec son fusil, bien entendu. Et le gars, il dit, mais ça ne servira à rien. De toute façon, derrière moi, il y en a d'autres. Et puis, il y en a encore d'autres. Faut d'abord s'adresser aux propriétaires. Mais c'est qui les propriétaires? Ben, les propriétaires, c'est les banques. Ben oui, mais les banques, ben, les banques, c'est quoi? C'est un organisme, mais il y a pas un visage sur la banque. Et là, on se rend compte qu'on est totalement dans le capitalisme moderne. C'est-à-dire que tout est anonyme et ça permet de faire passer beaucoup de couleuvres. Et puis surtout, en face de cet anonymat, eh ben, beaucoup de colère tombe. Quoi. Elle tombe parce qu'elle se retrouve totalement impuissante. Et bah, plus récemment, je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la construction de l'Europe. C'est-à-dire que beaucoup de prétextes maintenant, c'est à cause de l'Europe. Et c'est totalement anonyme. Et on retrouve là quand même une espèce de similitude.
Alors il faut ajouter une chose sur l'anonymat, hein, parce qu'effectivement Steinbeck le présente très bien, mais il y a quand même une crise générale qui rend effectivement le discours de celui qui va expulser les habitants en fait tout à fait crédible. C'est qu'en fait les banques ont fait faillite en masse suite à la grande dépression. Aux États-Unis, on avait des petites banques, notamment dans les zones rurales, et c'était des petites banques qui avaient une large possibilité d'accorder du crédit. Et c'était les plus exposées en cas de crise financière, puisque à ce moment-là, elles ne pouvaient évidemment pas rembourser l'argent qu'elles avaient prêté, et qui en principe ne leur appartenait pas, à préciser la chose. Et donc, on a eu des chiffres tout à fait impressionnants, hein. Je crois que 800 banques ont fermé en une seule année. Et donc la faillite, effectivement, c'est une crise de la liquidité, une fin de la liquidité, donc une incapacité à emprunter. Et donc le discours du banquier qui est à l'agonie est tout à fait véridique, en fait. Hein. C'est-à-dire que si sa banque n'est pas mise en faillite, eh bien il risque d'avoir des petits problèmes. Alors en plus, il y a la pression aussi des banques de l'Est, qui elles-mêmes n'accordent plus de crédit, des banques d'affaires. Donc c'est vrai que la crise est générale. Hein. La crise est générale, le chômage augmente tout d'un coup à 10%, il arrivera dans les années après à 25%. Et pour tout le monde, c'est un désastre.
Il y a un temps où on avait notre terre. Quelque chose nous tenait ensemble à ce moment. Les vieux mouraient, les jeunes les remplaçaient. Et on ne faisait toujours qu'un. C'était la famille. Un entier, un tout. Mais maintenant, ça n'est plus entier. Il n'y a plus rien qui nous garde entier. Al Rouspet est pleurniche pour partir et aller vivre sa vie. Et l'oncle Jean n'est plus qu'une loque qu'on traîne. Ton père a perdu sa place, il n'est plus le chef. Ça craque de partout, Tom. Il n'y a plus de famille maintenant. Et Winfield, qu'est-ce qu'il va devenir de cette façon? À grandir, sauvage, érouti aussi, comme des animaux, sans rien à espérer.
Toujours sur Fréquence Paris Pluriel, sur 106.3, c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Aujourd'hui, spécialement, nous vous proposons le commentaire du film de John Ford, Les raisins de la colère, tiré du roman célèbre de Steinbeck. Vous pourrez réécouter cette émission le lundi sur le site modedemploi.net. Alors, il y a un thème qui est très présent dans ce film, c'est la famille, et qui est porté par la mère de la mère de Tom, qui voit, elle, la paysannerie qui tourne, enfin qui se structure autour du milieu familial, c'est-à-dire que une terre sert à nourrir, voilà, l'oncle, le frère, etc., etc. Avec le déracinement et surtout la confrontation au monde du salariat. Avec l'exode et la possibilité du monde du salariat, il y a ce risque que la famille éclate parce qu'on est confronté à de trop grandes difficultés et que de part et d'autre, il y a une forme d'individualisme qui détruit les liens de solidarité. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est quand la famille en exode rencontre les pompistes ou les policiers en Californie et où elle s'aperçoit d'abord qu'elle a des gens qui sont très très bien habillés, bien sur eux, mais surtout qu'ils les voient qui voit ces gens comme des résidus du Moyen-Âge, des gens qui n'ont jamais connu autre chose que la misère et qui, n'ayant vécu dans la misère, n'ont même pas de conscience pour vivre.
Merci beaucoup.
Un as, alors. Tu parles s'ils si ont l'allure.
Tous ceux qui ont cette allure.
Bon, sop, j'aurais pas affronté le désert dans un taco comme ça.
Toi et moi, on a du bon sens.
Ces requins n'ont ni bon sens, ni sentiment.
C'est pas des humains. Un être humain voudrait pas vivre comme ils vivent. Un être humain ne supporterait pas autant de misère.
Ils doivent pas connaître quelque chose de mieux, j'imagine.
Oui, je suis pas sûr qu'il faut voir ça tout à fait de cette manière-là. C'est-à-dire que les autres, ils sont bien habillés, mais ils sont habillés avec l'uniforme de la compagnie qui vend de l'essence, quand même. Ils ont un revenu, on n'en parle pas trop, on ne sait pas trop. Bien sûr qu'ils ont un revenu, bien sûr qu'ils vivent et qu'ils peuvent se nourrir. Il y a un décalage, je dirais, presque de civilisation aussi. C'est-à-dire qu'on part d'un monde totalement rural, pas moyenâgeux, bien entendu, puisqu'ils connaissent quand même les moyens de culture un peu plus moderne, mais traditionnel. C'est un système, en plus, où c'est dans une ferme, toute la famille travaille dans la ferme, par rapport à un système de salariat, où là, y a une personne qui travaille, qui ramène un salaire, on ne voit pas derrière eux ce qu'il y a, on ne le montre pas.
Où est-ce que vous pensez aller comme ça, en poussant?
Jusqu'ici, on n'a plus d'essence.
Dites, où c'est qu'on trouve du travail dans le coin?
N'importe quel genre de travail.
Dites, j'en ai pas vu un de ces prospectus. J'en ai vu 1000.
Pourquoi? Ça n'est pas bon?
Pas ici et pas maintenant. Il y avait à cueillir ici il y a un mois, mais tout est parti vers le sud. Dites donc, vous êtes de l'Oklahoma, vous? De quel endroit?
Salisso.
Salisso? Mais moi, je suis venu du comté de Cherokee il y a à peu près 2 ans de ça.
Du comté de Cherokee? Oui. Oh!
Mais de Cherokee.
Mais les parents de Connie sont aussi de Cherokee.
Impossible.
C'est vrai, je vous assure.
Ça va, ça va. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Ce que j'avais à vous dire, c'est ça. Parquez pas en ville cette nuit, mais continuez jusqu'au campement. Si je vous passe en ville après la nuit, je devrais vous faire coffrer.
Mais qu'est-ce que nous allons faire?
Mon vieux, ça me regarde pas. Ce que je peux vous dire, c'est que le type qu'on devrait coffrer, c'est celui qui a envoyé ces trucs-là.
Mais on a quand même bien conscience que c'est la modernité en Californie. Et y compris, alors, la modernité à travers les grandes exploitations, donc la culture d'orange ou le coton, où la famille va aller chercher du travail. Alors là, c'est quand même un peu dur parce qu'ils tombent dans un camp de réfugiés. Donc avec des vrais bidonvilles faits avec les roulottes de migrants. Et puis, il y a le patron, en fait, les patrons qui déboulent aller chercher dans le camp pour aller chercher leur main-d'œuvre et qui ont bien pris le soin auparavant de diffuser des tracts dans tout le pays afin de ramasser un maximum de chômeurs de façon à baisser sur les prix.
Vous voulez du travail?
Pour sûr qu'on en veut, où qu'il y en a?
Dans le comté de Tulin, les fruits vont être mûrs, il nous faut beaucoup de cueilleurs.
C'est vous, Pabouché?
J'ai affirmé la terre.
Qu'est-ce que vous payez?
Je peux pas dire au juste encore, mais dans les 30 sous, je crois.
Vous pouvez pas le dire. Et faites le contrat, pas vrai?
Ouais, mais c'est serré pour le prix. Peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins.
Très bien, monsieur, j'y vais. Montrez-nous votre patente d'embauchage. Puis vous nous faites un papier. Où et quand et combien vous allez payer? Et vous signez et on part.
Écoute, toi le malin, je conduis mes affaires comme ça me plaît. J'ai le travail. Si tu veux le prendre, ça va. Sinon, reste assis sur ton cul. C'est tout.
Deux fois, je me suis laissé prendre. Possible qu'il ait besoin de 1000 hommes. Alors, il en fera venir 5000 et il les paiera 15 sous l'heure. Et vous, crétins, vous les prendrez parce que vous crevez de faim. S'il veut embaucher des hommes, qu'il le mette par écrit et dise combien il paie. Qu'il vous montre sa patente. Il n'a pas le droit d'embaucher des hommes sans avoir une patente.
Ezo, agitateur, t'as pas déjà vu ce type-là?
Il me semble que si. Il me semble que je l'ai vu rodailler autour de ce garage qui a été cambriolé.
Oui, c'est bien le type. Monte dans cette voiture.
Vous n'avez rien contre lui?
Ouvre encore la gueule et je t'embarque aussi.
Maintenant, vous, les gars, vous n'avez pas écouté ces rouges. Vous feriez mieux de faire vos paquets et de venir dans le comté de Tula.
Et alors là, on a quand même une petite surprise, c'est que on voit qu'aux États-Unis, la loi est du côté du propriétaire et du côté du patron, c'est-à-dire qu'il ne faut pas gêner l'affaire. Et si Steinbeck n'était pas qu'écrivain, qui a vraiment aussi bourlingué, n'avait probablement pas vu ce qu'il raconte, on aurait du mal à en croire ses yeux. C'est-à-dire que toute tentative d'organisation collective est immédiatement taxée de communiste, de rouge, de France d'affaires, alors qu'effectivement les pratiques de ce patron sont tout à fait inadmissibles et qui peut parfaitement, là pour le coup en temps de crise, ne pas respecter la loi, baisser les salaires, etc. etc.
C'est le copain dont tu nous as parlé?
C'est lui. Qu'est-ce que tu fais ici, Tom?
Travail, je cueille des pêches.
Mais j'ai entendu gueuler quand je suis arrivé. Je suis sorti pour savoir ce que c'était. Qu'est-ce qui se passe donc?
On est en grève.
Oh, 5 sous la caisse, c'est peu, mais ça permet de manger.
5 sous? C'est 5 sous qu'il paie?
Oui, on s'est fait 1 $ depuis midi.
Écoute, Tom, on vient pour travailler. On nous dit qu'on nous donnera 5 sous. Mais nous sommes venus très nombreux. Alors le type nous offre 2 sous et demi. Ben, un homme ne peut pas manger avec ça, et s'il a des gosses... Alors on dit qu'on ne veut pas. Alors il nous vide. Maintenant c'est 5 sous qu'il paie. Mais s'il brise cette grève, tu crois qu'il paieront 5?
Je sais pas, c'est 5 maintenant.
Ils paieront 2 sous et demi dès que nous serons partis. Rends-tu compte de ce que c'est? 1 tonne de pêche cueillie rendue pour 1 $. Avec ça, tu peux même pas acheter assez de nourriture pour vivre. Dis-leur de venir avec nous, Tom. Elles sont fanées dans leur pêche. 2 jours d'arrêt et ils nous paient. Ils nous paieront tous 5 sous, peut-être 7.
Oh, ils marcheront pas. Ils touchent 5 sous maintenant, c'est tout ce qui les intéresse.
Mais dès qu'ils ne seront plus briseurs de grève, ils toucheront plus 5 sous. Et qu'ils pourront, ils vous videront. C'est réglé comme 2 et 2 font 4. Oui, dès que la récolte est prête, t'es un ouvrier migrateur. Après ça, t'es un vagabond.
Ils gagnent 5 sous maintenant, c'est tout ce qui les intéresse. C'est exactement ce que Pain dirait. Il dirait que c'est pas son affaire.
Ça doit être vrai. Faudra qu'ils prennent une trempe avant de comprendre.
Une trempe, mais on n'avait rien pour la soupe. Ce soir, il y a eu de la viande. Peu, mais on en a eu. Tu crois que Pa va lâcher son beefsteak à cause d'un copain quelconque? Rose de Saron a besoin de lait. Tu crois que Mon va laisser crever de faim ce gosse à cause d'un type qui gueule devant une grille?
Tom, il faut que tu apprennes comme j'apprends. Je ne sais pas encore bien moi-même, mais j'essaie de comprendre les choses. Et c'est pourquoi je pourrai jamais redevenir pasteur. Un pasteur doit savoir. Moi, je sais pas. Faut que je demande.
Ça ne me plaît pas.
Qu'est-ce qu'il y a?
Je ne sais pas. On dirait que j'entends quelque chose, et puis quand j'écoute, j'entends plus rien du tout.
Ben avec toi, c'est possible, tu sais.
On est tous sur les nerfs. Les flics nous ont dit comment ils nous passeraient à tabac et nous videraient du pays. Pas ces flics réguliers, tu sais, mais c'est Vigile. Eux qui prennent pour la garde. Ils me prennent pour un heure parce que je parle beaucoup.
Et t'as la langue. Mais dehors, il se passe quelque chose.
Alors, ce qui est intéressant donc dans ce qui se passe en Californie, c'est que tout de suite, à travers ce salariat et même plus le salariat, parce que c'est en l'occurrence là, c'est du travail de manouvrier qu'on leur demande à ces gens, hein, pour aller récolter les pêches, les fruits, etc. C'est qu'on a bien conscience qu'il y a un déséquilibre complet entre le patron et le salarié. Ce qu'en France, on mettra des années à corriger via les conventions collectives, c'est-à-dire d'assurer un minimum de protection aux salariés. Bon là, on est dans le libéralisme sauvage, ça n'arrive pas. Et on peut exercer les prix à la baisse autant qu'on veut, en toute légalité, il n'y a aucun problème. Mais il y a quand même des gens qui tentent de résister. Et donc un certain Cazet, le prêtre qu'on a rencontré au départ, qui effectivement... commence à comprendre que l'organisation syndicale est indispensable pour maintenir un niveau de revenus décent, parce que Un des problèmes de la crise de 29, c'est que finalement, on était tombé tellement bas. C'est-à-dire que la chute des prix entraînait une chute des salaires, et une chute des salaires entraînait aussi une chute des prix. Puisqu'il y avait ce qu'on appelait un mouvement de déflation perpétuelle, d'autant que le crédit était réellement immobilisé. C'est-à-dire que plus personne ne prêtait, il n'y avait pas d'investissement. Donc c'était une situation qui était appelée à durer un certain temps. Et dans la tête des gens normaux de l'époque, on va dire, ou des gens qui étaient aux affaires à l'époque, il était très compliqué d'aller expliquer qu'il fallait à un moment donné enrayer la chute des salaires pour pouvoir maintenir un niveau de demande suffisant qui permettrait à l'activité économique de repartir. Alors, un certain John Maynard Keynes, lui, était sur ces théories-là. Et puis, bon, on s'aperçoit que Roosevelt finalement arrive aux affaires et qu'il est quand même un peu influencé par Keynes, un petit peu. Bon, c'est les mesures qu'il va prendre sont très limitées. Mais là, on a une illustration dans le film, c'est-à-dire que finalement, les réfugiés tombent sur un campement qui est en fait un programme gouvernemental d'assistance aux réfugiés et aux sans-terre, et où on va prétendre effectivement d'abord gérer le camp de façon collective et puis ensuite utiliser les travailleurs dans des programmes de travaux d'infrastructures qui auront, alors on a douté de l'efficacité de ces travaux d'infrastructures, mais il faut se rappeler qu'en Allemagne le premier réseau autoroutier a été produit presque 30 ans avant la France, et que alors effectivement la période hitlérienne qui a lancé des grands travaux collectif et qui a mis au travail tous ces chômeurs, que tous ces investissements s'est fait et que le chômage a d'ailleurs été complètement résorbé. Donc la politique de grands travaux publics qui a été menée mais assez timidement par Roosevelt.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'enfants qui jouent ici. On a beau dire aux gens de conduire doucement, parfois ils oublient, mais quand ils se sont cognés là-dessus, ils se rappellent.
Il y a de la place ici pour nous?
Vous avez de la chance. Bonsoir, madame. Ça va bien?
Bonsoir, monsieur.
Ça va bien?
Bonsoir, monsieur.
Suivez l'allée. Tournez à gauche et vous le verrez. Vous serez au pavillon sanitaire numéro 4.
Comment ça?
Oui, les toilettes, les douches et les lavabos.
Vous voulez dire lavabo à eau courante?
Oui, madame. Un comité du camp vous verra demain matin et vous installera.
Les flics?
Non, pas de flics. Non, les gens d'ici élisent leurs propres flics. Le comité des dames viendra vous voir, madame. Elles vous parleront des enfants, des écoles et de la question sanitaire et de ceux qui s'en occupent. Voulez-vous rentrer pour vous faire inscrire?
C'est cette fameuse, donc ce fameux campement qui est une initiative gouvernementale. Alors on s'aperçoit qu'aux États-Unis, il y a quand même un petit problème, c'est qu'on apprécie assez peu l'intrusion de l'État fédéral dans les affaires des États, des petits États périphériques. Et en l'occurrence, là, l'État prend en charge des dégâts qui ont été commis par les employeurs qui ont appelé toute cette main-d'œuvre et qui l'utilisent. Qui finalement est relativement satisfait d'avoir cette manœuvre qui fait baisser les prix de manœuvre, cette manœuvre de manœuvre de manœuvrier qui tire les coûts du travail à la baisse. Sauf que ces gens-là, personne n'en veut dans les communautés. On les veut juste pour travailler à un moment donné, mais ensuite ils se débrouillent, ils vont ailleurs et effectivement on met le feu à leur campement, on les chasse quand ils sont sur la route et qu'ils s'approchent d'une ville, et le gouvernement tente de réglementer, de stabiliser, d'apporter un certain aide, et on s'aperçoit qu'évidemment ça ne plaît pas à tout le monde et que les autorités locales tentent de provoquer des rixes à l'intérieur de ces camps pour pouvoir avoir un prétexte et les chasser.
Bonjour
monsieur.
Au travail. Écoutez, peut-être que je vais m'attirer des histoires, mais vous êtes des braves gars, de bons travailleurs. Alors je vais vous le dire. Vous vivez au camp du gouvernement, n'est-ce pas?
Oui, monsieur.
Et vous y organisez des balles tous les samedis soirs.
Et comment?
Eh bien, attention samedi prochain.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi le chef du comité central là-bas, il faut que je sache.
Ben, ne dites pas que je vous l'ai dit. Écoutez. Des citoyens excédés par des meneurs rouges brûlent un autre camp des migrants et ordonnent aux agitateurs de quitter le canton.
Dites donc, qu'est-ce que c'est que ces rouges à la fin? Chaque fois qu'on va quelque part, on entend quelqu'un en traiter un autre de rouge. Qu'est-ce que c'est que ces rouges à la fin?
Bon, ça, je n'ai rien à dire, d'une façon ou d'une autre. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y aura une bagarre au camp samedi soir. Et qu'il y aura des vigiles prêts à entrer. Maintenant, continuez votre travail.
Peut-être que j'ai trop parlé, que j'aurai des histoires, mais vous êtes des hommes comme nous, et des braves types.
Nous ne dirons rien. Merci.
Très bien.
Il n'y aura pas de bagarre non plus.
Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme injure, la suprême injure aux États-Unis pour arriver à bout politiquement de ces gens-là? On va les traiter de rouges, parce qu'ils ont la prétention d'être tout d'un coup dans un... En vase clos communautaire, en vase clos collectif. Et là, c'est intéressant parce que le héros, il sait même pas ce que c'est un rouge. C'est un paysan du fond de, du far du Midwest américain. Il a jamais entendu parler de ça. Et alors, ce qui est passionnant, c'est que finalement, il découvre le syndicalisme d'abord. Et le syndicalisme aux États-Unis existe. Il a existé pendant le 19e, il a existé dans l'entre-deux-guerres, mais il a été réprimé de façon bien plus violente et bien plus brutale qu'en Europe. Les policiers sont venus faire décarpir les gens des vides, parce qu'il y a eu des grands mouvements de grève entre 36 et 37, hein, puisque les choses ne s'amélioraient très lentement et très peu pour les salariés. Et puis il y a aussi eu des émeutes de la faim. On a vu aussi des écoliers attaquer des buffets qui étaient réservés aux vétérans de guerre pour manger. On a vu des écoliers aller manifester devant le rectorat donc américain pour demander qu'avec le système éducatif soient fournis les repas parce qu'ils étaient morts de faim et qu'ils étaient en haillons. Et puis il y a eu évidemment des cas d'expulsion fameux. Bref, des choses extrêmement violentes qui se sont produites dans toutes les États-Unis et dont on a très peu d'écho finalement dans les livres d'histoire américains et dont on entend finalement les historiens américains parler assez peu en dehors de Howard Zinn. Voilà, il y a quand même cette tradition ouvrière aux États-Unis et le héros découvre le syndicalisme sur le tard et on peut dire que là, pour le coup, il est vraiment un rouge. Puisque de toute façon, c'est un repris de justice et qu'il va être condamné. Steinbeck fait peut-être partie des écrivains qui finalement étaient tellement sensibles à la misère sociale que, comme Albert Londres, il ne pouvait pas s'empêcher quelque part d'être un peu rouge.
J'aimerais rester, moi. J'aimerais être près de toi et voir ta tête quand pas et toi vous vous serez fixés dans un beau petit coin. J'aimerais bien vous voir alors. Mais je crois que je n'aurai plus jamais cette chance maintenant. J'ai pensé à nous aussi, et aux nôtres qui vivent comme des porcs, et à cette bonne terre laissée en friche, ou peut-être à un type qui a 1 million d'arpents alors que 100 000 fermiers crèvent de faim. Et je me suis dit que si tous les nôtres s'unissaient et gueulaient...
Oh, Tommy, ils te pourchasseraient, ils t'écraseraient, tout comme ils ont fait à Cady.
Ils me pourchasseraient de toute façon. Tôt ou tard, ils finiraient par m'avoir pour une chose ou pour une autre.
D'ici là...
Tommy, t'as pas dans l'idée de tuer quelqu'un?
Non, pas ça, c'est pas ça. Seulement, ben puisque je suis hors la loi de toute façon, peut-être que je peux faire quelque chose. Peut-être que je pourrais trouver une réponse. En furetant partout, peut-être que je trouverai ce qui ne va pas.
Et puis voir s'il y a quelque chose à faire pour ça.
J'ai pas tiré ça au clair, moi. Je peux pas, je sais pas assez.
Mais comment que j'aurai de tes nouvelles, Tommy? Mais il pourrait te tuer, je n'en saurais rien. Il pourrait te faire mal. Comment je le saurais?
Ben c'est peut-être... Comme Casil disait,
un homme n'a pas une âme à lui tout seul, mais rien qu'un petit morceau d'une grande âme. La grande âme commune qui appartient à tout le monde. Alors?
Alors quoi, Tom?
Alors ça ne fait rien. Je serai partout, dans l'ombre. Je serai partout. Partout où tu seras. Partout où il y aura une bagarre pour que les gens puissent bouffer, je serai là. Partout où il y aura un flic qui frappera un gars, je serai là. Je serai là où les types gueulent quand ils deviennent enragés. Et je serai là où les gosses rient quand ils ont faim et qu'ils savent que la soupe est prête. Et quand les gens mangeront les choses qu'ils font pousser et vivront dans les maisons qu'ils construisent, je serai là aussi.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les appels pour l'exode, pour soi-disant beaucoup de places qui a été fait en un nombre extraordinairement grand, en surplus, 10 fois la population qu'il y avait besoin en réalité pour faire les travaux. Alors ça fait descendre les prix, bien entendu, mais ça fait beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des régions où vivait déjà quand même une population, et c'est cette population qui a pris en bras. C'est-à-dire que là, on voit aussi une opposition qui peut y avoir entre une population qui est sur le terrain, qui subit les inconvénients par rapport à cette société anonyme, ce capital, qui lui n'en a rien à faire. Tout ce qu'il voit, c'est les chiffres des salaires descendre. Et il ne voit pas le... donc, en plus, comme ça se passe aux États-Unis, on n'est pas loin encore du western, on n'est pas loin, alors ça va vite à ce que ce soit les armes à feu qui parlent.
Mort arrive un jour où un homme en a marre.
Ah, dis, tu m'as promis, pas être comme ça, rappelle-toi, tu m'as promis.
C'était la loi ce qu'il nous faut, on doit le supporter, mais c'est pas la loi. Ce qu'ils veulent démolir, c'est notre morale. Ils veulent nous voir nous courber, ramper, nous enlever notre dignité.
T'as promis, Tom.
Je sais, j'essaie de le faire, je te le jure.
Il faut que tu te retiennes, la famille se disperse, Tom, il faut que tu te retiennes.
Qu'est-ce que c'est, une déviation? Où c'est que vous allez comme ça?
Nous ne sommes pas du pays, monsieur. Il paraît qu'il y a du travail dans une ville appelée Tullard.
Mais, eh ben vous vous trompez de chemin. En plus de ça, on ne veut plus de nouveaux hockeys dans cette ville. Il n'y a déjà pas assez de travail pour ceux qui sont ici.
Quel est le bon chemin, monsieur?
Ben fais demi-tour et va vers le nord. Et ne revenez pas avant la cueillette du coton, c'est compris?
Je voulais quand même comparer ce film avec d'autres films, parce que ce film-là nous montre l'envers des films sur la prohibition, les films de gangsters qu'on aime tous, qu'on vient voir avec des mitraillettes, et les films de gangsters, qu'il s'agisse des films de Scorsese ou de Brian De Palma, ou, montrent tous une époque richissime, une époque où on fait fortune, où on s'enrichit, où on vit dans le luxe, à Chicago, à New York. Bon... Et puis évidemment là on a un film qui est tout à fait différent. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait les films de gangsters montrent une certaine réalité, c'est-à-dire qui est celle de la prohibition. Et on a dit que la prohibition était vraiment un symptôme de l'Amérique à l'époque, parce que tout le monde a contourné la prohibition, et non seulement tout le monde a contourné la prohibition, mais en fait la prohibition a servi à un certain nombre de familles ou à un certain nombre de gangsters de s'enrichir très très rapidement, et en fait de spéculer. C'est-à-dire que l'Amérique a aussi découvert la spéculation grâce à la prohibition. Et quand je dis qu'elle a découvert la spéculation, elle a aussi découvert la corruption, puisque on achetait le premier flic du coin jusqu'au dernier sénateur, et il y a eu cette espèce d'orgie monétaire. D'enrichissement, mais d'enrichissement sur des trafics clandestins, pas sur de la production réelle. Et il y a c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire avec les années qui précèdent la crise de 1929. C'est une année où, enfin, les 10 années qui précèdent sont des années où le capitalisme américain se porte bien et où la productivité augmente. Les profits augmentent, mais où le salaire des ouvriers stagne, augmente légèrement. Mais on n'est pas dans une logique de pleine répartition. Hein. On est pour le coup dans une logique très actionnariale. Le fait d'enrichir donc les profits provoque mécaniquement un report de ces gains à la bourse. C'est-à-dire qu'on va réinvestir tout l'argent qu'on a en trop dans des activités boursières, puisque l'activité industrielle appelle l'activité industrielle et donc conduit à la spéculation. Et quand la crise survient, on s'aperçoit d'une chose, c'est que finalement, à avoir misé sur l'investissement du capital et donc avoir favorisé les personnes qui étaient déjà favorisées, qui étaient les chefs d'entreprise, on a asséché la demande. C'est-à-dire qu'on a empêché l'ouvrier lambda de gagner un peu mieux sa vie, de consommer un peu plus. Et lorsque la crise survient, lorsque le crack survient, finalement, l'économie se trouve paralysée parce que l'investissement l'est et parce que la consommation des riches l'est aussi. Et le système s'écroule tout d'un coup parce qu'il n'y a personne pour prendre le relais au niveau de la consommation. C'est vrai qu'il y a un parallèle à faire avec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est exactement dans ce schéma-là, ce symptôme-là où la spéculation est un symptôme. D'abord, est un symptôme du fait qu'effectivement une petite partie de la société s'enrichit. Mais qu'elle ne réinvestit pas ses gains, et que lorsque la bulle spéculative a fini de gonfler pour s'écrouler, et bien finalement il n'y a plus personne pour prendre le relais de l'économie. Galbraith, quand il a écrit L'Argent, a écrit ça en 74, entre 71 et 74. Et ce qu'il décrit, quand il décrit la crise de 29, on trouve ça très très contemporain. Alors voilà ce que dit Galbraith, donc dans L'Argent. Les prix et les salaires furent presque stables de 1922 à 1929. Puisque la production et la productivité se développaient, tous deux, on estime à 43% l'augmentation de la production par ouvrier dans les industries de transformation au cours des années 20, cela signifiait que des profits augmentaient. Le revenu net d'un échantillon de 84 grandes entreprises de transformation tripla presque de 1922 à 1929. Le montant des dividendes distribués doubla. Compte tenu d'une série de réductions d'impôts sur le revenu, cela signifie que la part de revenus allant aux riches pour leur consommation ou l'investissement s'accrut considérablement. Ce revenu devait être dépensé ou investi. Si un facteur quelconque venait interrompre cette consommation ou cet investissement, il y aurait une insuffisance de la demande et donc des problèmes. Les dépenses et les investissements étaient tous deux vulnérables. Les dépenses des riches pouvaient baisser à la suite d'un mouvement de panique, comme par exemple d'une forte baisse en bourse. I'm going down the road feeling bad. I'm gone down the road feeling bad. I'm gone down the road feeling bad. Oh Lordy, I ain't gonna be treated this way. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, sur 106.3, c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Aujourd'hui, spécialement, nous vous proposons le commentaire du film de John Ford, Les raisins de la colère, tiré du roman célèbre de Steinbeck. Vous pourrez réécouter cette émission le lundi sur le site modemploi.net. Justement, donc, on a parlé de ce film, mais c'est pas seulement pour faire de l'histoire. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de comparer un peu la situation présente avec d'autres époques, avec des situations d'autres époques. Alors déjà, moi, ce qui m'a frappé, c'est que d'abord, on s'aperçoit bien que la grande différence avec la crise de 29, c'est la protection sociale. C'est-à-dire que, au moins, après la crise de 29, on a mis en place des protections sociales assez relativement fortes, au moins en Europe, et qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation à peu près... on avait atteint les 10% de chômeurs, on est presque à 11%, et malgré tout, l'État soutient en quelque sorte un minimum, je dirais à minima, les gens qui ont perdu leur emploi, et qu'on est quand même dans un monde qui paraît beaucoup moins violent.
Oui, une comparaison aussi qu'on peut faire, enfin c'est... Je reviens toujours à ce monde de l'Exode. Eux, c'est en très grande quantité, mais c'est un petit peu ce que l'on a subi, nous, subi ou vécu, ou ne serait-ce que par l'information, puisque c'est pas à Paris, mais à Calais, avec ce camp de Sanguette, c'est-à-dire des gens qui viennent pour immigrer, pour travailler en Angleterre. Il se trouve que l'Angleterre, qui pendant un bout de temps a accepté ces gens-là aussi, parce qu'ils avaient besoin de certaines manœuvres, s'aperçoit qu'il y en a beaucoup de trop, ferme la frontière, rend l'Europe responsable de ce déplacement, et on se retrouve avec beaucoup de gens, alors clandestins parce qu'ils n'ont pas l'autorisation mais de rester en France, mais ce qui est normal, puisque eux, leur but n'était pas de rester en France, hein, mais d'aller en Angleterre. Et avec un petit peu tous les désagréments que ça peut produire dans une ville un petit peu bourgeoise, hein, ou tout au moins qui aspire, qui a une certaine quiétude, et qui là se retrouve avec des gens qui sont dans la rue, qui font forcément la manche, avec des ONG qui viennent les aider, bien entendu. Mais et puis on s'aperçoit qu'on détruit ce camp, les gens, faut bien qu'ils aillent quelque part, donc ça revient, ça s'agglutine, ça va un petit peu ailleurs, mais c'est un petit peu en miniature quand même ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire des villes qui se sont retrouvées d'un seul coup totalement envahies par une masse de population qu'il fallait héberger, qu'il fallait nourrir, et qui se retrouvaient de toute façon sans travail.
Oui, alors c'est vrai que l'exode rural, on a connu ça de façon, alors à la fois plus tardive et un peu plus tôt aussi, curieusement, mais on peut dire que, disons dans les années 50, au moment où étaient construites toutes les barres HLM en France, c'est cette situation-là en fait qu'on a vécue en période de croissance pourtant, mais les changements de l'agriculture qui ont eu lieu après les guerres, la mécanisation, ont conduit beaucoup de gens à se réunir en ville. Et les villes ont évidemment grossi. Et quand on parle du bidonville de Nanterre, le bidonville de Nanterre était constitué effectivement entre autres d'Algériens, mais pas seulement. Il y avait aussi des paysans qui étaient un peu les perdants quoi, de l'industrialisation et de la modernité, un peu comme le sont nos héros des raisins de la colère. Et les grandes cités ont été construites en priorité pour ces gens-là, hein, pas seulement pour l'immigration, pour accueillir toute la masse de paysans qui venaient s'installer et qui effectivement avaient l'eau courante et les toilettes, etc.
Et que l'industrie, parce que c'est ce qui s'est passé aussi dans les années 50, l'industrie était demandeur de main-d'œuvre. Et là, par contre, les gens ne se retrouvaient pas aussi en grande quantité désœuvrés. Ils avaient quelque chose, un travail dans l'industrie. Hein.
Le capitalisme fonctionne bien en grande période de croissance, en période d'industrialisation. Mais tout d'un coup, quand il est asséché, qui a un problème hein, c'est un peu ce qu'on vit là, et on vit une espèce de décadence perpétuelle, et la décadence se traduit aussi par une désindustrialisation et un non-renouvellement des infrastructures, un non-renouvellement des bâtiments. Quand le capitalisme conduit à une stagnation, il produit effectivement, il charrie une misère sans nom, alors que par ailleurs la condition ouvrière lorsque le capitalisme est presque un emploi est presque au plein emploi, elle n'a rien d'enviable en temps normal. Donc il y a quand même ce cycle des salaires qui sont quand même assez souvent des salaires des ouvriers qui sont quand même très comprimés en cas de plein emploi et en cas de chômage. Bon, voilà, c'est simple, il n'y a plus de salaire, mais on a l'impression quand même aussi d'un système qui n'est pas très équitable en tant que tel. Cette émission se termine, je vous remercie de l'avoir écoutée, je remercie ceux qui l'ont faite. C'était Claude à la technique, Ludovic et Claude au micro, et un film apporté par Gilles. Vous pouvez nous réécouter le lundi sur le site mode-d-emploi.net. L'émission sera en archive, et nous vous disons à la semaine prochaine. Bonne soirée.
Au revoir.